Retour aux journées portes ouvertes de l'Institut Croix-Rouge Compétences de Chambre-les-Tours où nous avons le grand honneur de présenter la formation CESF. Si je ne me trompe, ça veut dire conseillère en économie sociale familiale. Est-ce que c'est ça ?
C'est bien ça.
C'est bien ça. On a le plaisir de recevoir pour nous, parler de la formation de conseillère en économie sociale et familiale, Mathilde Flore qui est formatrice sur la filière, Jessica qui est étudiante et qui va nous expliquer son parcours et où elle en est, et aussi deux jeunes invités qui sont venus à la porte ouverte ce matin et qui viennent prendre des renseignements. Donc on va leur demander un petit peu quel est leur parcours, pourquoi elles sont venues ce matin et qu'est-ce qui les motive à peut-être entrer en formation de CESF avec nous. Alors, on va commencer par Jessica, qui va se présenter, malgré son niveau de stress. Est-ce que tu peux te présenter, Jessica, avec un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a, avant de rentrer en formation, qu'est-ce que tu as fait ?
Alors bonjour, je m'appelle Jessica, j'ai 38 ans, je suis en reconversion professionnelle.
Okay.
J'ai choisi le métier de conseillère économique et sociale et familiale suite à du bénévolat que j'ai okay. fait dans un centre social.
Un centre social, c'est-à-dire centre social culturel, quoi, enfin une maison de quartier.
Un centre social.
Ok.
Il s'appelle centre social.
Okay. Vous accueillez du public pour faire des animations ?
Oui aussi, et il y avait aussi, moi j'étais plutôt référente famille sur le pôle
okay.
enfance.
Et donc tu faisais quoi ?
Je faisais des animations, des ateliers, parce que je suis à la base cuisinière.
D'accord, et donc tu fais des animations pour les enfants et leur famille ?
Oui, c'est ça, okay. ouais. Et c'est ce qui m'a donné envie de trouver une formation qui pouvait ressembler, aider les gens et dans leur vie quotidienne,
ouais.
par le biais de la cuisine au départ.
Ouais.
Et du coup, l'assistante sociale qui était référente famille m'a orientée vers ce diplôme-là.
D'accord.
Elle m'a dit, ça te ressemble, c'est pour toi. Voilà. Et je me suis renseignée et du coup, je me suis lancée pour le BTS ESF
D'accord.
qu'il faut avoir avant
un BTS.
DE.
Ok, donc ça veut dire 2 ans.
2 ans, oui. Et j'ai fait un an par correspondance et un an en centre de formation.
Ok. Et où ça, en centre de formation, je ne sais pas trop.
La MFR de Rougemont.
D'accord. Parce que nous, on fait la 3e année jusqu'ici du DE-CESF. Donc un DE-CESF qui commence par 2 ans de BTS,
oui.
qui est fait dans un autre institut de formation pour l'instant, et une 3e année de diplôme.
De CESF.
De CESF. Et donc là, actuellement, tu es en 3e année.
Oui, c'est ça.
Avec nous. Oui. Comment ça se passe la formation de 3e année en CESF ? Comment ça s'organise ? Qu'est-ce que tu vois comme cours ? Est-ce que tu as des stages ?
Oui, j'ai des stages. On a deux grandes périodes des stages.
D'accord.
On a des cours.
À l'école ?
Oui.
Ouais. T'as pas l'air sûre.
Non, ça sort pas.
Je m'inquiète parce que je crois que je t'ai vu il y a pas longtemps en cours, donc là j'ai un gros coup de stress. Il y a des cours sur quoi par exemple ?
On a eu des cours sur la politique sociale, sur l'éducation budgétaire,
ouais.
Sur le partenariat,
ouais.
sur la recherche.
Le mémoire. Non, regarde pas comme ça. Toi, tu as choisi ton thème de mémoire ?
Oui.
Ouais. Et alors, tu vas bosser sur quoi ?
Sur les demandeurs d'asile et le rôle parental.
D'accord. Ok, super. Et donc, entre les périodes de stage, tu reviens à l'école et
oui.
tu as des cours.
Oui.
Et alors, vous étiez une promo de... Petite promo, je crois.
Oui, on était 12.
D'accord. Et là, il y a eu des suspensions de oui. formation. Donc on passe de la formation IDE qui était à 190 à la formation CESF où elles sont plus que 10 pour l'instant.
9.
Okay. Qu'est-ce que tu aimes dans cette formation ? Est-ce qu'il y a vraiment un moment où là tu prends plaisir ?
Alors j'aime quand les professionnels nous font... Enfin, un cours, façon de parler. Enfin, quand ils interviennent, je trouve ça très intéressant et très instructif, en fait. J'aime beaucoup la simulation, tout ce qui est travail...
Vous faites de la simulation aussi ?
Plutôt de la situation, oui.
Ouais. Comment ça se passe ?
Ça fait peur, mais c'est sympa.
Pourquoi ça fait peur ?
Parce que moi, je suis assez timide, plutôt stressée. Et du coup, Mais une fois que je l'ai fait, j'ai trouvé ça super. Et de se regarder et de voir ce qu'on a fait, et c'est très intéressant.
C'est-à-dire que vous êtes filmé, après, il y a le débriefing ?
Oui.
Ok. Ouais. Et on vous met sur des situations que vous êtes censé rencontrer
Oui, c'est ça. Oui. Comme des situations réelles.
Ouais. Ok, d'accord. Ok, et comment tu te vois à la sortie de ton diplôme ? Est-ce que tu as envie d'aller travailler quelque part en particulier ? Et puis, comment tu te vois faire avec les personnes ?
Ça, je ne sais pas encore.
Ouais, ça se construit
enfin,
là.
Enfin, je sais que ça sera plutôt, et c'est ce que m'a dit ma maître de stage, que j'étais plus pour tout ce qui était hébergement, accompagnement complet, des choses plutôt CHRS,
Avec des personnes qui sont hébergées, qui sont sur place.
Oui.
Et où il y a un accompagnement
plus
global.
Plus complet et, et plus long, en fait.
D'accord. Okay. Ça, c'est vers quoi tu tends.
Oui, je pense.
Ok.
Voilà. Enfin, on m'a dit que ça pouvait être une bonne direction pour moi, en plus.
Ok. En plus, ça m'aide. J'ai oublié mon mot. Alors là, ça te conforte dans ton projet professionnel.
Voilà.
C'est ça.
Mais je ne sais pas trop encore.
Ok. Parce que vous rentrez à quelle époque les CESF ? C'est quand la rentrée ?
Septembre.
Septembre. Et votre diplôme, il est quand ?
Octobre.
Voilà, c'est ça. C'est une année un peu particulière qui commence en septembre et qui finit en octobre avec les mois d'été qui sont...
Pour le travail de mémoire.
Merci. Bien vu. La planification est bonne. Super. Ok, merci Jessica, beaucoup, et n'hésite pas à continuer de compléter sur la discussion. Je vais passer la parole à nos deux petites invitées donc on a croisé. Je leur ai proposé si elles voulaient venir nous expliquer pourquoi elles étaient là ce matin, et elles ont gentiment accepté, et je les remercie vraiment beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire qu'est-ce qui vous a fait venir ce matin discuter avec nous ?
Donc je me présente, je m'appelle Eva. Actuellement, je fais un BTS ESF aussi, donc à la MFR Rougemont.
Ok.
Donc pour nous, le DE, c'est un peu une continuité logique.
Est-ce que si tu t'arrêtes au BTS, tu peux travailler en tant que CESF ?
Non.
Ah ouais ?
Non, le BTS, il nous permet d'être TESF, donc technicienne en économie sociale et familiale.
D'accord.
Mais pas CESF.
D'accord. Ok.
Donc il y a vraiment le DE qui nous donne.
Qui est incontournable.
Ce rôle-là, en fait.
Ouais. Okay.
Mais après, on peut travailler en tant que TESF. Mais après, pour moi, mon objectif professionnel, c'était mieux de faire donc le DE par la suite.
D'accord. Et donc, vous connaissiez l'établissement avant de venir ce matin ? Vas-y, vas-y.
T'en avais entendu ? Non.
Non.
Vous avez été... Enfin, il y a des gens... Des personnes d'ici qui ont été invitées à venir nous faire la présentation de votre école dans ma classe. Donc moi aussi je suis à la MFR Rougemont de Tours. Et sauf que vous avez finalement pas pu venir. Donc on s'est dit que c'était bien de pouvoir venir aux portes ouvertes.
D'accord, il y a eu une petite coquille. C'est bien, alors vous êtes venus à nous, vous n'avez pas lâché l'affaire, vous êtes venus à nous. Comment vous ressentez les choses là, en arrivant, en découvrant un peu l'Institut, en discutant ? C'est quoi vos sensations là ?
Alors moi personnellement, peut-être un petit peu plus sereine, parce que je m'attendais à quelque chose de vraiment plus haut, au niveau scolairement je parle.
Ouais.
Et en entendant Jessica parler, ça me rassure un peu sur mon choix, donc plutôt contente pour le moment en tout cas.
D'accord. Ok. Au niveau des attendus, tu es rassurée au niveau des attendus pédagogiques ?
Et du coup, moi, je suis plus rassurée au niveau des attendus, pas pédagogiques, mais au niveau de mes attendus par rapport au bâtiment, notamment. Même si je pense que je vais me perdre un petit peu au début. Et puis même juste de rencontrer les gens et de discuter tout de suite... Ça met en confiance plus et voilà.
Et tu t'attendais à quoi comme bâtiment ? Non mais on en parle du bâtiment de la Croix-Rouge ou pas ?
Alors du coup je vous explique.
Ouais.
Pour moi les bâtiments dans le social, il y a moins de budget. Et donc je m'attendais à des bâtiments qui soient moins, enfin qui soient plus vieux, plus voilà. Mais du coup, je suis très heureuse ouais. sur l'inverse.
Ouais. On a un très bel outil de travail pour nos étudiants et ça, c'est vrai que je souligne ça parce qu'on est déjà nous très heureux en tant que professionnels et fréquentant l'institut tous les jours de toute l'année pratiquement d'avoir cet outil de travail. Et je pense que pour les étudiants, ça met aussi dans une ambiance sécure. Convivial, enfin on essaye, hein, on en reparlera tout à l'heure, mais on a installé pas mal de petits coins comme ça pour que les étudiants se sentent bien dans leur centre de formation.
Oui, c'est sûr. Et puis aussi, je sais que nous, à la MFR, on est en tant qu'élèves, on est au même niveau que nos formateurs. Enfin, c'est pas comme les profs au lycée ou quoi, ou à la fac où ils sont ouais. vraiment au-dessus. Ouais. Et du coup, c'est pareil, je me disais, mince, comment ça va être ouais. ici ? Mais du coup, je vois qu'au final, il y a même des professionnels qui viennent. Ouais. Et donc ça me rassure aussi okay. de voir okay. ça.
D'accord. Parfait. Je vais passer la parole à Madame Mathilde Flore, qui est formatrice auprès des CESF notamment, mais ce n'est pas la seule fonction que tu as à l'Institut.
Bonjour.
Bonjour Mathilde.
Bienvenue à nos invités.
Ouais.
En effet, donc moi j'interviens dans la formation des conseillers ESF et assistants sociaux. Et je suis aussi en charge d'accompagner l'ensemble de ces étudiants dans leur recherche de stages, contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation.
Mais aussi sur la filière assistante
oui,
service
voilà,
social.
Oui, ces deux promotions. Enfin, ces deux formations.
Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours avant d'être devenue formatrice?
Oui, donc...
Parce que je pose cette question-là pour que les auditeurs ils se rendent compte de quel type de formateur ils auront à faire.
Oui, tout à fait. Donc j'ai un BTS économie sociale familiale, puis j'ai fait un DE conseil à ESF. À l'issue, donc, je suis allée un petit peu sur le terrain. J'ai pu prendre des postes assez différents pendant une dizaine d'années. J'ai exercé en CHRS, par exemple.
Ouais. Donc CHRS, pour nos auditeurs,
oui.
Centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
Voilà. J'ai aussi exercé dans le champ de l'éducation, cette fois, notamment dans des MFR, avec une mission très spécifique, qui était dans une structure... dans le département de la Savoie, où j'avais pour mission d'accompagner les étudiants, mais bien sur le versant social. Et c'est assez propre à cette structure, ouais. parce que c'est plutôt rare d'avoir cette mission au sein d'une MFR. Mmh. J'ai aussi travaillé en CESAD TED, cette fois sur un poste d'assistant de service social.
Alors, CESAD TED. Voilà. Explique-nous ce que c'est un CESAD TED.
Un CESAD qui accompagne les familles dont les enfants sont porteurs de troubles autistiques.
Ouais. Et donc qui va faire de l'accompagnement scolaire à domicile ou de l'accompagnement dans les établissements scolaires?
Alors voilà, l'équipe éducative intervient dans les lieux dans lesquels l'enfant peut se développer, donc ça peut être à domicile comme en effet dans une école ou d'une famille d'accueil, enfin voilà.
D'accord.
Et pour ma part, moi j'étais vraiment sur l'accompagnement des familles dans les domaines de la vie quotidienne. Et puis ensuite j'ai enseigné à l'éducation nationale sur des formations de bac pro. Et puis je suis arrivée à la Croix. J'ai aussi été responsable d'un service d'aide à domicile.
D'accord.
Voilà, pareil, j'avais deux missions, la gestion d'équipe, mais aussi et toujours l'accompagnement social à domicile des personnes âgées, personnes en situation de handicap. Et puis ensuite, j'ai pris un poste, maintenant il y a 4 ans, à la Croix-Rouge de formatrice. Au départ, sur la formation uniquement des conseillers ESF. Mmh. Et puis, progressivement, je suis intervenue sur la formation des assistants sociaux.
D'accord. Voilà. Okay. Donc, un parcours professionnel quand même assez dense avant d'être dans cette position de transmission d'apprentissage d'un métier, d'un futur métier. Qu'est-ce que toi, tu aimes dans cette posture de formateur? Qu'est-ce qui te fait lever le matin?
Alors, tout d'abord, si j'ai fait le choix d'être formatrice, c'est certainement par envie de transmettre. Envie de transmettre, envie de partager avec des futurs professionnels.
Oui, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, comme Jessica l'a dit, il y a quand même pas mal de professionnels qui viennent témoigner auprès des étudiants, en fait.
Complètement.
Il n'y a pas que les formateurs qui font des cours.
Exactement. Et puis, alors, ce qui m'intéressait tout particulièrement à l'IFTES, c'était la posture qu'on nous donnait en tant que formateur et qui permet finalement de pouvoir aussi s'enrichir des expériences des étudiants.
Ouais.
Voilà. Et puis, alors, qu'est-ce qui me fait lever tous les matins?
À condition que ta fille t'ait laissé dormir.
Ce qui me fait lever tous les matins, la première chose, je dirais, c'est d'aller travailler avec l'équipe du pôle social, yeah, avec mes collègues. Yeah. C'est aussi d'aller à la rencontre d'un groupe d'étudiants, puisque c'est vrai que le formateur, il est davantage auprès de groupes d'étudiants que de promotions complètes. Et c'est d'aller à la rencontre de ce groupe pour une nouvelle fois partager. Et puis, mon troisième objectif le matin, quand je me lève, quand même, c'est d'aller chercher un stage, d'aller trouver un lieu de stage pour les étudiants.
Ouais. Donc, on est quand même assez présent par rapport à la recherche de stage. Et bon, ça, il y a des étudiants qui ne peuvent pas partir en stage ou on ne trouve pas de stage, c'est déjà arrivé?
Alors, la philosophie, ou en tout cas, que l'IFTS veut donner cet accompagnement à la recherche de stage, c'est vraiment d'inviter les étudiants à rechercher par eux-mêmes leur lieu de stage. Donc nous, quand je dis nous, c'est moi et ma collègue Stéphanie Gabry.
Pourquoi vous...
Absolument pas, mais parce que ça participe aussi à la démarche de professionnalisation.
D'accord.
Que de les amener à être dans une dynamique de recherche de stage ou de contrat d'apprentissage d'ailleurs. Mm-hmm. Malgré tout, on est présente, moi et ma collègue, qui est sur la même mission, comme support auprès des étudiants. On peut préparer l'étudiant, on va accompagner l'étudiant dans sa candidature par exemple, ou dans la préparation à un entretien pour un lieu de stage. Parallèlement, on va continuer tout notre travail partenarial avec les sites qualifiants qui accueillent ou qui vont pour projet d'accueillir.
Activer le réseau. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer, là, de ton point de vue, comment se déroule une année, une troisième année pour le DE-CESF, s'il te plaît?
Alors, la troisième année du DE, elle est assez particulière. C'est une année un peu charnière, j'ai envie de dire, puisque je pense que vous l'avez très bien décrit tout à l'heure. Le BTS est une formation technique. Quand vous êtes diplômé du BTS ESF, vous êtes technicien ou technicienne. Le DE a une approche assez différente, que ce soit d'un point de vue scolaire, mais aussi d'un point de vue d'un point de vue scolaire, mais aussi d'un point de vue accompagnement des étudiants.
D'accord.
C'est-à-dire que on va amener l'étudiant à davantage travailler l'approche réflexive autour de sa pratique.
Qu'est-ce que c'est que ça, l'approche réflexive?
L'idée, c'est vraiment de permettre d'inviter l'étudiant à analyser sa pratique professionnelle, à être dans une recherche constante sur des problématiques qui peuvent le questionner. Donc, on est plus sur des apports très scolaires,
ouais,
où on demande à l'étudiant d'apprendre par cœur.
Ouais.
Là, on demande vraiment à l'étudiant, on invite vraiment l'étudiant à réfléchir.
Sur lui.
C'est vraiment ce que j'expliquais à Eva, c'est ça? Je ne me trompe pas? À Eva tout à l'heure.
D'accord.
Qui avait une vraie inquiétude à ce sujet.
C'est-à-dire que l'approche réflexive, ce serait une façon de réfléchir sur soi et de ce qu'on va faire en tant que professionnel, de ce qu'on produit en tant que professionnel face à une personne qui est fragile.
Exactement. Et puis, c'est ce que je disais aussi, du coup, avec Jessica tout à l'heure, à des personnes qui venaient visiter. C'est aussi une vraie remise. Ça nécessite en tout cas une vraie remise en question très personnelle de l'étudiant sur qui il est et ce qu'il a envie de devenir en tant que professionnel.
Ouais. Ça te parle, ça, Jessica?
Oui. Oui, en fait... On recherche beaucoup qui on est.
Ouais. Vaste question.
C'est une année qui bouscule, personnellement.
Ouais, c'est beaucoup de pensées, c'est beaucoup de réflexions, de recherche sur soi-même, sur ce qui nous entoure. C'est vraiment très complet, mais très sociologique aussi, très psychologique.
Ouais.
Très... C'est très intéressant.
Ouais, ça fait avancer. J'imagine qu'on ne sort pas de la formation. C'était ma dernière question. Toi, qu'est-ce que tu attends d'un étudiant à la sortie du diplôme ?
Alors, j'aurais envie de dire que l'étudiant, en tout cas en troisième année de CVSF, se constitue toute une mallette d'outils à tous les niveaux et qu'ensuite, il a besoin d'aller expérimenter pour se saisir de ces outils. Donc la première chose, ça serait peut-être d'aller mettre en œuvre ce qu'il n'a pas eu l'occasion de faire à travers son stage, mais que la formation a pu lui apporter. Et puis, de poursuivre en tout cas toute cette approche réflexive dont on parlait tout à l'heure, qu'il puisse continuer à se questionner sur le terrain et tout au long de son parcours professionnel. Je pense que c'est déjà beaucoup.
Bah ouais, c'est déjà une vaste ambition.
Et puis surtout qu'il s'épanouisse dans son futur travail.
Ouais. Être heureux dans son travail.
Ouais.
Quoi.
Je pense que c'est la clé. Hein.
Ok. La question de Mélissa, peut-être ?
Alors, j'ai écouté avec intérêt tout ce que vous avez expliqué, mesdames. Mais alors, est-ce que vous voudriez peut-être donner des exemples un peu plus précis pour nos auditeurs qui n'ont jamais rencontré de CVSF ou de TESF sur les... Donc, on comprend qu'il y a des outils pour accompagner des personnes dans des situations difficiles, des personnes fragiles, qui sont des publics variés, dans des structures différentes. Mais ces accompagnements, ça peut être quoi ? Ça peut être, par exemple, transmettre des savoir-être ou des savoir-faire à des parents ou des enfants autistes. Est-ce que ça peut être, par exemple, une aide à la parentalité ? Donc, je pense au public dans les APAJ, par exemple, des gens qui ont des difficultés sociales diverses et peut-être c'est pas facile pour eux d'accompagner leurs enfants. Ou alors, est-ce que ça peut être aussi de l'éducation financière pour des groupes de femmes ? Enfin, Donc voilà, je sais pas si ça, c'est des choses qui relèvent du travail de CESF ou pas du tout. Vous allez pouvoir me le dire.
Oui, tout ce qui a été cité peut être le travail d'une CESF.
Alors, quand même, il y a une spécificité hein, quand on est CESF. Est-ce que Jessica, tu veux l'aborder ?
L'éducation budgétaire. Là est toute la différence. On accompagne les familles ou les personnes seules
établir, reprendre,
se redresser. Enfin non, comment dire, non, c'est
pas le
mot.
Se rétablir,
ouais.
Ouais, se redresser,
c'est
pas, ouais,
c'est sorti un peu. Ouais, je l'ai senti après l'avoir dit. C'était pas le mot. Ouais. Excusez-moi. Ouais, plutôt se soulager aussi, parce que aider à l'éducation budgétaire, c'est dans le but aussi que quelqu'un puisse reprendre sa vie en main et aussi l'aider à se reconstruire.
Ouais. Parce que les CESF interviennent plutôt sur des petits budgets ou des budgets où il y a des situations d'endettement.
Sensibles, oui.
Voilà, des budgets sensibles. Et la question de l'argent, c'est dans notre société aujourd'hui, c'est extrêmement prégnant. Et ça peut, quand tu dis se soulager, moi j'ai l'impression que vous participez à une forme d'accompagnement pour aller vers une tranquillité par rapport à ça.
Enfin, moi, je le ressens comme ça.
Ouais. Alors, si je peux juste me permettre pour rebondir sur la question de Mélissa. En effet, aujourd'hui, on a des offres de poste hein, qui tendent à mutualiser la profession de CESF et d'AS. Donc, là, ce qui marque en fait la différence entre une CESF et une AS, hein, c'est vraiment la spécificité du budget, de l'accompagnement au budget. Mais pas seulement, c'est aussi, et on l'a un petit peu décrit tout au long de cette interview, c'est aussi toute la culture professionnelle, j'ai envie de dire, et la formation initiale qui est proposée. On est quand même sur deux architectures de formation très différentes, trois années pour une ASS, pour lesquelles les apports théoriques sont pas du tout les mêmes qu'en formation de CESF et ni de BTS-ESF, parce que en BTS, les apports sont beaucoup plus techniques. Voilà, et c'est aussi ce qui va différencier, qui va créer une particularité dans l'accompagnement, c'est vraiment la formation initiale des, des professionnels.
Vous avez une expertise du quotidien sur la précarité énergétique, sur
le logement,
les questions d'alimentation, etc. C'est vraiment au plus proche des besoins premiers de la personne.
Donc on peut être
que vous essayez de voir au niveau de ses choix. Quoi.
Exactement, on peut être sur des missions similaires à une ASS ou un ASS, et néanmoins accompagner différemment de par la culture professionnelle.
Ouais, c'est ça.
Différente.
Alors justement, excusez-moi, hein, mais c'est que j'avoue, je ne connais pas bien votre métier. Est-ce que vous voudriez nous donner des exemples, par exemple, sans citer de nom ni de structure, hein, c'est pas l'objet, mais de choses que vous pouvez mettre en place. Par exemple, on vous adresse, d'ailleurs, qui vous adresse ? Une personne qui a des dettes, parce qu'elle a une situation qui fait que. Qu'est-ce que vous pouvez lui proposer en fait ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous allez à domicile ? Est-ce que vous faites un recueil de données ? Qu'est-ce que vous pouvez demander et ne pas demander ? Qu'est-ce que vous pouvez transmettre aux gens ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a une obligation de résultat ?
Je ne sais pas, Jessica, peut-être que tu peux témoigner d'une expérience de terrain que tu as vécue ? Ou juste pour illustrer en fait ce que tu as pu mener comme accompagnement sur le lieu de stage actuel. Est-ce que tu peux donner un exemple d'accompagnement que tu as proposé ? Donc, tu es en CADA, Jessica ?
Oui.
CADA, oui. Centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Oui. Je suis la traductrice officielle de cette émission.
j'accompagne une famille. Je les ai aidés à ouvrir leurs droits, tout ce qui est santé. Et je les ai aussi aidés à l'éducation budgétaire. Et là, oui, j'ai fait un recueil de données. Je dis « on » parce que c'est avec ma tutrice. Mmh. On a analysé et ensuite, elle m'a demandé de réfléchir sur ce qu'on pouvait faire et lui proposer. Et donc, on l'a orienté vers un partenaire, ce qui se fait beaucoup, parce qu'on travaille beaucoup en partenariat. Et on l'a aussi aidé à établir un futur budget pour un futur logement, parce qu'en fait, ils étaient accueillis en CADA. Et ils vont être orientés dans un nouveau logement. Donc, on les a aidés à la transition.
À passer de CADA à un
d'un logement accompagné à un logement autonome.
Voilà. Avec des charges fixes qui leur reviennent.
C'est ça.
Enfin, une gestion budgétaire
tout un accompagnement
plus complexe.
Pour avoir la vision de ce qu'ils vont avoir à régler. Parce qu'ils ne connaissent pas trop. Et on est là pour les accompagner et leur expliquer comment se constitue un budget, en fait. Voilà.
Ah, donc c'est-à-dire que vous prenez en compte tous les paramètres des personnes que vous accompagnez, qui elles sont, quel âge elles ont, d'où elles viennent,
le parcours,
connaissances elles ont, et puis de dire à quel degré d'autonomie on peut les amener, parce que j'imagine que dans certains cas, même avec toute la bonne volonté du monde, peut-être vous vous apercevez que les gens ils pourront pas faire des trucs très, très difficiles pour plein de raisons. Et peut-être des fois, ils ont pas envie. Je ne sais pas comment vous jugez.
Nous, en CADA, justement, les outils sont là pour ça. On utilise beaucoup les icônes parce qu'il y en a qui ne parlent pas français. Donc, on accueille beaucoup d'étrangers. Et le temps qu'ils apprennent la langue, on essaye avec des icônes. Pour le budget, on prend des petits logos CAF. Pour préciser que c'est la CAF, on fait ranger ils rangent leurs papiers dans ces pochettes-là. Enfin, on essaye de trouver des astuces pour les accompagner.
En effet, alors de manière plus générale, c'est toute une méthodologie qu'on retrouve dans l'intervention sociale, qu'on va aussi retrouver et appliquer chez les assistants sociaux, où on demande à l'étudiant finalement de comprendre la situation avant de proposer une intervention, et puis ensuite de faire des propositions, toujours en convenance avec la famille et même avec la participation de la famille. Difficile de donner des exemples concrets parce qu'il y a tellement de possibilités que c'est que voilà, c'est pas si simple, mais voilà, ça peut aller d'un accompagnement, je sais pas, sur le montage d'un dossier d'aide sociale, jusqu'à, je pense que Jessica l'a bien illustré, jusqu'à un accompagnement dans l'insertion vers le logement.
Jusqu'à un accompagnement sur le dossier de surendettement, jusque, par exemple,
voilà, dossier Banque de France. Un accompagnement au dossier Banque de France. Ça peut être...
Comment réduire ses factures d'énergie?
Ça peut être de la sensibilisation ou de la prévention sur les énergies, sur l'écologie, sur l'écologie,
la santé. Ouais.
Voilà, c'est très varié.
C'est très varié, oui.
Mais
c'est vraiment ancré dans le quotidien de la personne.
C'est ancré dans le quotidien. Et puis surtout, voilà, on est purement sur de l'accompagnement social. On n'agit pas avec, par exemple, des ressentis ou des pressentis, mais bien avec, avec toute une méthodologie qu'on applique.
Voilà. OK. Ok, merci beaucoup à vous, à Mathilde, Flore, formatrice, Jessica, étudiante en DECESF 3e année, et Eva et
Anouk.
Donc j'avais oublié le nom d'avoir participé à cette petite émission, et on espère peut-être vous retrouver l'année prochaine, et Jessica, on espère ne plus te voir l'année prochaine. Voilà.
Moi aussi.
Voilà. Merci. Et toi Mathilde, toi je compte bien te voir encore quelques années. Merci à vous, à bientôt.
À bientôt.
Merci, au revoir.
Merci.